Ce matin, j'aimerais commencer par une anecdote. C'est quelque chose qui a eu lieu il y a plusieurs décennies. Aux États-Unis, il y a eu un comité évangélique qui a décidé d'organiser une grande campagne d'évangélisation. Et à cette époque, c'était courant d'inviter un orateur connu et de le faire prêcher tout au long de la semaine, tous les soirs. Et donc, cette année-là, ils ont invité une pointure. Je crois que c'était Billy Graham ou un autre grand nom de l'évangélisme anglo-saxon. Et donc, le premier soir arrive, et on va dire que c'était Billy. Alors, Billy Graham ouvre la Bible, et puis il commence à prêcher sur un texte bien connu des évangéliques. Est-ce que je peux avoir la main ? Voilà, Jean 3,16. Et il commence « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et donc, il prêche, et puis le lendemain arrive, il remonte en chair, et qu'est-ce qu'il fait ? Le lendemain, il reprêche sur Jean 3,16. Et puis là, les organisateurs se regardent et ils se disent « Il radote le papy, là ?» Ou « Il a... » Ah non, en fait, il a dû pas pouvoir tout dire la veille, et donc il va compléter, et il prêche sur Jean 3,16. Mais le troisième jour, Billy remonte en scène, et qu'est-ce qui se passe ? Devinez sur quoi il prêche ? Jean 3,16. Et là, à la fin du message, il y a un des organisateurs qui va le voir, et puis qui est tout penaud, mais qui va lui dire, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois... Est-ce que vous allez encore prêcher sur Jean 3,16 ? Pourquoi vous prêchez toujours sur le même texte ? Et Billy Graham sourit, elle regarde, il lui dit « Pourquoi je prêche sur Jean 3,16 ? Mais parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui et qu'il ait la vie éternelle. » Alors, je vous vois venir ici, je suis en train d'amortir ce que je vais dire, c'est que je vais encore prêcher sur le travail. Mais pourquoi, Franck, tu prêches encore sur le travail ? Ben parce que c'est un sujet important. Vous allez passer un tiers de votre existence au travail. Un tiers. L'autre tiers, c'est à dormir. Et le reste, c'est à vous de gérer. Mais un tiers de votre vie va être au travail. Il faut avoir une bonne compréhension du travail si on ne veut pas gâcher un tiers de notre vie, non ? Vous ne croyez pas ? Vous investissez dans un bon matelas, non ? J'imagine, j'espère en tout cas que vous dormez bien. C'est essentiel de bien dormir. Donc vous investissez dans un bon matelas. C'est ce qu'on a fait avec mon épouse. Et en fait, je pense que si on passe un tiers de notre temps au travail, il faut aussi investir au bon endroit. Et il faut savoir ce que c'est que le travail. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ce travail ? C'est fondamental. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est le dernier message de la série. Donc voilà, ça soulage certains. Je vous entendais d'ici. Grincer des dents. En fait, la notion du travail, elle est en train de se métamorphoser, notamment depuis la pandémie de la Covid-19. Il y a eu un véritable raz-de-marée. Les sociologues appellent ça un épiphénomène, mais ça reste un phénomène qui a pris de l'ampleur et à cause ou grâce aux réseaux sociaux, ce phénomène s'est amplifié. Je ne sais pas si vous connaissez le quit-quitting. Ça vous dit quelque chose ? Le quit-quitting ? Alors, on va voir si vous êtes un adepte du quit-quitting. C'est quoi ? C'est un nouveau mode de fonctionnement qui consiste à faire le minimum vital. Ça ne veut pas dire que vous allez gruger votre patron. Mais vous faites le minimum vital, c'est-à-dire que vous arrivez juste à la bonne heure, vous commencez à 8 heures, pas à 7h59, donc vous pointez à 8 heures et vous vous en allez à 17h00, pas à 17h01. Et si on vous demande quelque chose qui n'est pas écrit, stipulé clairement dans votre contrat, vous ne le faites pas. Ça, c'est le quit-quitting, le minimum syndical. Ça vient... Et c'est une réaction Parce qu'il y a des abus dans les entreprises, vous l'avez probablement vécu, si vous êtes un peu, vous avez bourlingué dans les entreprises, il y a des abus en tout genre dans les entreprises, on peut nous presser comme des citrons, et par réaction, eh bien, on a un moyen d'agir, c'est qu'on peut nous-mêmes réagir et refuser certaines choses, et donc c'est en réaction. Et donc, avec tout ce qui s'est passé avec la Covid, ça a fait réveiller certains aspects, notamment le fait d'avoir travaillé à la maison en télétravail. On s'est aperçu qu'on pouvait vivre des choses depuis la maison, qu'on n'était plus obligé de vivre au travail. On a commencé à prendre un certain confort. On pouvait venir travailler en pyjama. Il y avait des vidéos qui traînaient. Le gars, il était en caleçon, en train de faire son truc, et puis il se lève, sauf qu'il était filmé. C'est assez cocasse, mais ça vous montre qu'on était très détendu. Et les gens se sont facilement habitués. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne viennent plus dans les églises aujourd'hui parce qu'ils se sont habitués à regarder les cultes en ligne. Si c'est votre cas, les amis, que vous regardez ce culte en ligne, si vous êtes malade, que vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est super. Mais si vous avez le moyen de vous déplacer, mes amis, là, vous êtes en train de faire une grave erreur, de ne pas vivre la communion fraternelle. Ça ne vous concerne pas, vous êtes là. Mais c'est à ceux qui sont derrière l'écran que je dis ça. Vous avez besoin des autres. Donc ces mauvaises habitudes qui ont été prises, elles se sont installées. Regardez ce qu'un sondage dit. Il dit que seulement 6% des gens en activité sont dévoués à leurs tâches chaque jour. Ils sont contents d'aller travailler. 6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 94% des gens ne sont pas heureux au travail. Et en tout cas, ils ne sont pas engagés dans leurs tâches. Dans ces 94% restants, il y en a 25% qui sont totalement désengagés. Un collègue sur quatre, les amis, même un petit peu plus, parce que c'est sur 94%, c'est 25%. Donc un peu plus d'un collègue sur quatre vient au travail les deux pieds devant. Vous voyez, il n'a pas envie de travailler. Il préfère chiller. Et donc, on voit... Pardon, je n'ai pas mis la slide. C'est pas grave. Mais comment on peut expliquer ce désintérêt? Eh bien, il y a différents facteurs, notamment le manque de considération financière et de reconnaissance liée au travail réalisé. Vous l'avez probablement déjà vécu. Il est gentil de s'approprier la réussite de son projet, mais j'y ai quand même participé et il m'a même pas mentionné. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont démotivantes et du coup, qui nous bloquent quelque part. Écoutez le témoignage de Romain. C'est une personne qui est employée dans une grande entreprise de communication. Voilà ce qu'il dit. Finir après 18h30, c'est terminé. Tout comme accepter des dossiers pour lesquels je sais que nous sommes en sous-effectif ou sourire à mes managers alors qu'il existe un manque cruel d'accompagnement des salariés. C'est la solution que j'ai trouvée pour ne pas craquer. Je vois simplement cette stratégie comme un mécanisme de défense avant de potentiellement trouver autre chose. Et je ne suis pas le seul. Et ce témoignage vient appuyer ce que dit un psychologue du travail du nom de Christophe Nguyen. Voilà ce qu'il dit, le quit-quitting n'est qu'une démonstration de plus d'un certain désenchantement des salariés vis-à-vis des promesses non tenues de l'entreprise en termes d'émancipation, de reconnaissance et de bien-être. Et parmi les autres éléments qui peuvent conduire au quit-quitting, eh bien, il y a également la qualité de vie au travail. C'est une chose de plus en plus importante pour les nouvelles générations. En fait, les jeunes qui démarrent dans le monde du travail sont prêts à s'engager à fond pour une entreprise, mais pas à n'importe quelle condition et pas à n'importe quel prix. Pour les jeunes, le fait de travailler et de s'investir doit donner lieu à une compensation qui n'est pas uniquement financière. Ils aimeraient que l'entreprise adopte des heures de travail souples, beaucoup plus souples que ce qu'on pourrait imaginer pointer à une certaine heure. Non, on veut pouvoir arriver à l'heure qu'on veut le matin. Mais après, on repart quand on veut aussi. Vous voyez, beaucoup de souplesse. Ils voudraient aussi avoir de la satisfaction dans le travail qu'ils font. Trouver un intérêt. Eh bien, mes amis, ça va être compliqué, hein ? Parce que si vous voulez rassembler tous les facteurs, avoir un travail épanouissant, c'est pas toujours le cas. Et on va dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens sur la planète qui font un travail, pas par épanouissement ou pas pour s'épanouir, mais parce qu'ils ont besoin de manger. Et donc, quand on rajoute tous ces éléments-là, finalement, on place sur le travail des attentes qui sont assez énormes. Et forcément, qu'est-ce que ça tire ? C'est que le travail ne répondant pas exactement à nos attentes, eh bien, on est déçu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on va critiquer et se mettre en retrait. C'est ce qui se passe ici. Les gens vont faire du quit quitting, c'est-à-dire le minimum syndical. Et donc, on ne s'engage plus. Ma question aujourd'hui, parce que ça c'est un phénomène de société, et je sais que tout phénomène de société, à un moment donné, arrive dans l'Église. Et je sais que vous êtes dans le monde du travail, la plupart d'entre vous. Eh bien les amis, ça arrive aussi avec vous. Et cette mentalité gagne du terrain jour après jour, et probablement que vous vous posez peut-être même ces questions. Ouais, effectivement, finalement, je suis pas si épanoui que ça dans mon travail. Finalement, c'est pas si intéressant que ça. J'aimerais vraiment, et vous voyez, on peut... Après, augmentez nos attentes. Mais plus vous allez augmenter vos attentes, et plus votre niveau de déception va augmenter avec. Et le taux de satisfaction va diminuer. C'est proportionnel, en fait. À mon avis, il serait bien de regarder ce que la Bible dit. Je n'ai pas trouvé de mot correspondant à « quit quitting » dans la Bible. Ça veut dire la démission, hein. En gros, le minimum syndical. Mais j'ai quand même trouvé deux textes qui sont adressés à des Grecs. Pas niente. On aime bien le soleil, mais on ne travaille pas trop. Alors ça, c'est plutôt à Marseille, il y avait là ça. Hein. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. C'est des chrétiens, d'authentiques croyants, mais qui avaient une petite tendance à la paresse. Vous allez voir. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix, s'il vous plaît, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ça, c'est le premier texte. Deuxième texte, qui est aussi adressé à la même église, aux mêmes chrétiens, mais quelques temps plus tard. Même message. Mais là, un petit peu plus piquant. Vous allez voir. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 12. « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. » Les amis, quand on lit ces deux textes, on peut déjà répondre à cette première question. Est-ce que le quick quitting est acceptable pour un chrétien ? Ma réponse est très claire. Des fois, c'est un peu mitigé, hein ? Là, c'est non. Clairement, non. Le quick quitting n'est pas bon. La paresse au travail est inacceptable, mes amis, inacceptable pour un chrétien. Je peux comprendre que pour un temps, on a envie de faire le minimum vital. C'est quand ça commence à s'installer et que ça devient un mode de vie. Là, c'est inacceptable. D'accord ? On peut être déçu pendant une semaine, deux semaines, ok, et puis dire, ok, là j'en ai fait beaucoup, effectivement j'ai travaillé tous les jours 48 heures par semaine, c'était trop, donc je me retire un peu de... Mais si ça dure toute la vie, mes amis, si vous êtes en mode quit quitting tout le temps... Je suis désolé de vous dire ça, mais là, c'est pas bon du tout. C'est un mauvais témoignage. C'est ce que dit Paul ici. C'est un mauvais témoignage pour les gens du dehors. Parce que quand on est en mode paresseux, en mode quit quitting, il se passe des choses, les amis. Il se passe des choses. L'oisiveté amène le péché. L'oisiveté amène bien souvent le péché. Pourquoi c'est inacceptable pour un chrétien. Ben parce que quand on devient chrétien, on se détourne de son péché pour se tourner vers Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on reçoit le Saint-Esprit. D'accord ? Le Saint-Esprit vient habiter dans notre vie. Il vient convertir nos pensées. Il vient convertir notre cœur. Il vient convertir nos motivations profondes. Il vient convertir, donc c'est-à-dire changer radicalement. La conversion, c'est un 180 degrés, hein, un demi-tour. Il vient changer radicalement nos motivations profondes, notre volonté et notre capacité d'obéir à Dieu. Auparavant, non seulement on n'avait pas envie de plaire à Dieu, on n'avait pas envie d'obéir à sa parole, mais on ne pouvait même pas le faire. On n'avait pas la capacité de le faire. Maintenant que le Saint-Esprit est en nous, on devrait pouvoir changer. Mais il faut que ça change là déjà. Ensuite, ça va changer là et ça va changer là. Vous voyez ? Il y a tout un cheminement. Et les Thessaloniciens n'avaient pas capté ça. Ils avaient tout capté au niveau de l'amour, hein, théoriquement. Regardez ce qu'il leur dit au verset 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous êtes vous-même instruit. Vous savez les choses. Vous les connaissez. Vous savez parfaitement ce que la Bible dit sur l'amour. Probablement que vous aussi, vous le savez. On n'a pas besoin de vous en apprendre. Vous êtes des experts, docteur S en amour. Sauf qu'au verset 10, regardez ce qu'il leur dit. « Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. » À progresser encore. Et dans quel domaine il devait progresser, mes amis ? Dans cet amour-là, l'amour agapé. L'amour agapé, c'est pas un vague sentiment ou même un noble sentiment. Il s'agit d'un amour concret qui se traduit par des actes tangibles. D'accord ? C'est un amour qui est orienté vers les autres et non pas tourné vers soi. C'est pas égoïste. C'est un amour rempli de bonté, un amour serviable, d'accord ? Et c'est pas naturel, c'est un amour divin, c'est un amour qui vient de Dieu. C'est d'ailleurs ce genre d'amour qu'on a lu dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a agi. Cet amour-là, il est concret, il a envoyé son Fils mourir à notre place pour notre péché. C'est ce genre d'amour que nous avons en nous, les amis, grâce au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut développer cet amour-là en nous. Quelle est la première manifestation du fruit de l'Esprit ? Galates 5, 22. L'amour. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. AJPPBBFDM, ça commence par le A. Dieu veut qu'on ait un amour concret. Parce qu'il est en nous et qu'il nous a donné cette capacité et qu'il veut que ça grandisse en nous. Dieu va prendre toute la dimension qu'il souhaite dans notre vie et il faut que ça s'exprime à un moment donné par des actes. Eh bien, dans ce domaine-là, les Thessaloniciens avaient besoin de progresser. Et je ne vais pas sortir ici une prophétie, mais je ne vais pas trop me tromper non plus. Vous avez besoin de progresser dans l'amour. J'ai besoin de progresser dans l'amour. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que vous aimez comme Jésus aime ? Il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi ? De donner quoi ? Sa vie pour qui ? Pour ses amis. Notre premier ami, c'est Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour Jésus. Mais après, c'est nous. Hein. Les premiers amis, ce sont les frères, c'est le prochain. Et donc, vous voyez, la manifestation de cet amour, elle manquait cruellement aux Thessaloniciens et elle nous manque. Donc, ce message qui est adressé aux Thessaloniciens, finalement, elle m'est adressée à moi et peut-être à vous. En tout cas, du point de vue concret, certains, et pas tous, hein, mais certains Thessaloniciens étaient complètement à la ramasse. Au lieu de développer un esprit de service, ils avaient développé un esprit de paresse. Or, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne lutte pas contre notre tendance naturelle ? notre égoïsme revient au galop. Naturellement. Vous n'avez pas besoin de vous forcer. Qui se force pour regarder la télé au lieu de faire la vaisselle? Personne. Personne, parce que naturellement, on est paresseux. On procrastine. Il n'y a pas besoin de former personne pour ça. C'est naturel. Ça fait partie de notre ADN. Eh bien, Jésus, en donnant le Saint-Esprit, il vient contrer cet ADN, mais il nous demande à nous d'agir à un moment donné. Il nous donne la capacité de dire non, de changer notre mentalité et à un moment donné d'agir. Mais vous voyez, il faut mettre tout ça en branle parce que sinon, naturellement, on va chiller. Hein, vous savez ce que c'est, chiller? En français courant, ça serait glander. C'est la coulée douce. Vivre de manière paresseuse. Le quit quitting, en fait. Le minimum syndical. Et vous savez, le pire dans cette histoire, c'est que les Thessaloniciens y justifiaient leur paresse avec la Bible. Vous savez pourquoi ils étaient comme ça? Et ça, il faut lire le reste de l'épître, c'est juste après ce texte, on n'a pas le temps de tout lire ce matin, mais parce qu'ils n'avaient pas compris correctement le retour de Christ. Ils pensaient que Jésus allait revenir dans 3 minutes. Sauf que ça faisait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, que Jésus était remonté au ciel et qu'il n'était pas toujours descendu au ciel. Et ces gens, ils avaient peur de rater le retour de Jésus. Ils étaient paniqués, en fait. Et la peur faisait qu'ils étaient probablement avec leurs jumelles en train de scruter les cieux tous les jours et ils faisaient des quarts, hein, des tournus pour pas rater Jésus. Vous imaginez si on ratait Jésus? Et ils étaient tellement préoccupés par ça, par le retour de Jésus, qu'ils en avaient oublié l'essentiel. Qu'ils avaient oublié les choses que Dieu dit dans sa parole, que nous devons absolument faire. Et qu'est-ce qui se passait? Ils vivaient au détriment des autres. Ils étaient totalement dépendants de la bienfaisance des autres. Et vous savez quoi? Ils avaient trouvé une bonne vache à lait, un bon filon dans l'Église. Parce que dans l'Église, il n'y a que des gens sympas. Quand on voit des gens qui ont peu de moyens, qui sont assez pieux, on a envie de les aider, n'est-ce pas? Vous les regardez, puis vous dites, oh, le pauvre, il n'a quand même pas grand-chose à manger. Ouais, sauf que dans ce cas-là, il cultivait son baba. Pas son baba. Il cultivait son baobab. Ils avaient un gros poil dans la main et ils le justifiaient, Bible en main. Mes amis, ne prenez pas la Bible pour justifier votre péché et votre paresse. Il y a beaucoup trop de textes qui vont dans l'autre sens. Vous êtes obligé d'arracher des livres entiers de la Bible, des pages, mettre du blanc dans tous les sens. Il ne va plus vous rester grand-chose. Non, la paresse, ce n'est pas pour le croyant, mes amis. Et vous savez ce qui se passe en général? Quand on ne fait pas grand-chose, on a du temps pour discuter avec les autres. Regardez ce qu'il dit. Mettez votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires. Qu'est-ce qui se passait? En fait, ces gens-là, comme ils ne faisaient rien, ils avaient du temps. Et donc, quand on n'a rien à faire, hein, ceux qui ne travaillent plus, en général, ils ont du temps pour discuter et pour regarder ceux qui bossent. Ma voisine était retraitée, elle passait ses journées derrière ses petits rideaux, je la voyais. En fait, je voyais toujours le petit rideau, deux petits doigts qui dépassaient, je savais très bien ce qu'elle faisait, parce qu'après, elle en parlait à l'autre voisine. Et tous les gens qui passaient dans l'immeuble, en fait, elle connaissait tous les allers et retours, les venues et les... Ah, mais c'est impressionnant! Elle n'avait que ça à faire. Et les potins, je peux vous dire que la concierge du village, hein, comme on les appelle, le concierge, c'est pas pour rien. C'est cette pratique-là. Et en fait, quand on est oisif, qu'on n'a rien à faire, ben c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passait. Ils se mêlaient des affaires des autres. En général, les gens comme ça, ce sont des super conseillers. Ils ne travaillent pas et ils vont vous donner des conseils pour savoir comment vous devez gérer votre temps. J'en connais. Vous savez ce qu'ils sont aujourd'hui? Coach. Coach de vie. Quand on est coach de vie, regardez le passé. T'as bossé combien de temps dans l'industrie? Ah ben en fait, j'ai jamais travaillé. Mais tu sais, moi, le travail dans l'industrie, c'est pas mon truc, il y a vraiment trop de pression. Non, moi, c'est plus cool. Je suis consultant maintenant. T'as besoin de conseils pour gérer ton argent ? Je pourrais t'aider parce que j'en ai pas beaucoup, donc on peut dealer. Eh bien, c'est aussi un des autres travers. Regardez ce que dit Paul au verset 12. « Cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. » Les amis, quand on a peu d'argent et qu'on a du temps, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'ils font les jeunes en bas des cités qui n'ont pas d'argent ? Idylle. Ils vont faire des bêtises. Quand on n'a pas d'argent, on va toujours se débrouiller pour en trouver. Il y a des petits malins, hein. Le système D. Moi, je dirais plutôt le système M. Ce n'est pas le débrouille, c'est la magouille. Le système, je détourne, c'est ce qui se passe. Ils étaient malhonnêtes. Ils ne les encourageraient pas à avoir, à être honnêtes, à se conduire d'une manière honnête s'ils l'étaient. Il n'y avait pas besoin. Donc, si on te dit arrête d'être malhonnête, c'est que tu conduis d'une manière malhonnête. Vous voyez ? Tout s'explique, en fait. Paul trouve ça inacceptable. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Parce qu'ils ont continué là-dedans, et là, il va taper un peu plus fort. Et c'est la deuxième épître, vous l'avez lu comme moi, c'est une phrase, un slogan qu'on pourrait utiliser avec tous les paresseux. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Attention, il n'est pas en train de dire si quelqu'un ne peut pas travailler. Parce que ça peut arriver. Vous pouvez être malade. Vous pouvez dépendre des autres à un moment donné. Vous pouvez avoir un handicap. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ici, il parle bien des gens qui sont en capacité de travailler. Et il leur dit, « Ok, tu ne veux pas travailler, mon ami ? Eh bien, tu jeûnes. Tu vas jeûner longtemps si tu ne veux pas travailler. Tu vas perdre beaucoup de poids. » Mais c'est la réalité. Paul les met au pied du mur ici. Vous ne voulez pas travailler ? Eh bien, mangez pas non plus. Et ça, c'est assez radical. Mais c'est un principe qu'il faut vraiment saisir. Parce que sinon, on va encourager une chose que la Bible dénonce aussi, c'est l'assistanat. Quand, en tant que chrétien, on est appelé à aider les plus pauvres, à aimer notre prochain, mais on n'est pas appelé à assister de manière permanente. Vous voyez, l'assistanat, ce n'est pas biblique. L'entraide est biblique, pas l'assistanat. Je crois que je l'ai mis ici. L'entraide est biblique alors que l'assistanat est trop souvent un encouragement à la paresse. Vous en connaissez tous comme moi, des gens qui profitent du système. Les Thessaloniciens profitaient du système. Ils profitaient des chrétiens qui étaient généreux. Et là, Paul dit, stop les amis. Vous êtes en capacité de travailler, vous allez bosser. Arrêtez de glander. Arrêtez de chiller. C'est gentil, mais ça, c'est bien naturel. Mais les amis, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous devez changer. Ça, c'est capital. Il n'y a pas de place pour le quit-quitting chez les croyants. Et pourquoi il n'y a pas de place, mes amis ? Notre raison principale, c'est que on travaille pour le roi des rois. On ne travaille pas pour une entreprise. On ne travaille pas pour notre épanouissement. On travaille pour le roi des rois. Ça doit changer toute notre motivation. Et en tant que fils du roi, en tant que prince, les amis, on a des moyens que les autres n'ont pas. On a reçu le Saint-Esprit. On est en capacité de faire des choses que les autres ne peuvent pas, notamment au niveau de notre motivation, mais pas que. Nous, on n'a pas besoin de chercher notre identité dans le travail. Dieu nous en donne une nouvelle. Nous avons une nouvelle identité. Nous sommes le sel de la terre. Au travail, nous devons saler. Si les gens n'ont plus de goût à travailler autour de nous, c'est nous qui allons leur apporter ce goût-là. Par notre exemple, par notre positivité, par notre manque de critique, on va jouer ce rôle de celle de la terre et contrer cette tendance du quit-quitting. Et au lieu de faire le minimum syndical, qu'est-ce qu'on est appelé à faire ? Vous l'avez mémorisé, on fait notre maximum d'une manière radicale. C'est ça que Jésus nous appelle à faire. Pas le minimum syndical, le maximum d'une manière radical. Alors maintenant qu'on a évalué le quit quitting à la lumière de la Bible, on était d'un côté du balancier, hein. Donc là, c'est la paresse. Et puis maintenant, on va passer de l'autre côté du balancier, et puis après, on tombera au milieu, d'accord ? Mais j'aimerais qu'on aille de l'autre côté du balancier, et là, c'est aussi un autre phénomène qui s'appelle le workaholisme. Et ceux qui sont adeptes de système sont des workaholiques. Bien sûr, ce n'est pas un terme français, le work, ceux qui ont fait un peu d'anglais, vous avez vu que c'est le mot « travail ». En français, le même mot est traduit par « ergomane ». Un ergomane. Un ergomane, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement « ergon », c'est le mot « travail » en grec. Et « man », hein, et « héroïnomane », c'est quelqu'un qui est accro à l'héroïne. Eh bien là, c'est quelqu'un qui est accro à son travail. Quelqu'un qui dépend de son travail. Quelqu'un qui a un besoin vital de son travail pour exister, pour être épanoui, voyez ? C'est quelqu'un qui, finalement, si on lui enlève son travail, sa vie est foutue. Il va se suicider ou il va déprimer. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver à un moment donné dans notre vie. Quand on s'est investi à fond dans une entreprise et que tout s'arrête du jour au lendemain, ça peut arriver. Mais c'est encore une fois, comme le quit quitting, quand ça s'installe d'une manière durable et que ça devient un mode de vie, que vous passez votre temps au travail et que ça ne vous dérange pas, que vous trouvez ça bien et que c'est même valorisant. Quels sont les critères pour définir si vous êtes ou pas workaholic ? Premier critère, c'est déjà, ça ne vient pas de moi, hein, je l'ai lu cette semaine, c'est des médecins du travail qui disent que les gens accros au travail passent au minimum 48 heures par semaine à leur travail. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle ? Non, levez pas la main. Qui passent plus de 48 heures ? Si tu passes plus de 48 heures, c'est un des premiers symptômes. Il n'y a pas que celui-là. Il n'y a pas que celui-là. Ça peut arriver, hein. On peut, sans être workaholic, passer plus de 48 heures au travail. C'est quand c'est de manière répétée, on est d'accord, et que c'est durable, et que c'est un mode de vie, que ça pose problème. Premier élément d'un workaholic, c'est qu'il a du mal à déléguer. Quand on a la difficulté à déléguer des tâches, qu'on pense qu'on est la seule à pouvoir faire certaines tâches. Finalement, c'est quelqu'un qui se sent irremplaçable. Ça, c'est un aspect. Deuxième, le perfectionnisme obsessionnel. Quand on est accro à son job, on attache de l'importance à ce que le travail soit pas seulement bien fait, mais qu'il soit parfait. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut que le travail soit parfait ? Eh bien, on s'arrête jamais de travailler parce que on estime qu'on peut toujours l'améliorer. Et donc, on refait, et jusqu'à ce que ce soit parfait, mais comme ça l'est jamais, eh bien, on est toujours à fond dedans. Et ça devient une drogue. C'est aussi quelqu'un qui veut toujours être le premier, le meilleur dans tout ce qu'il entreprend. C'est quelqu'un qui a un état d'esprit compétitif. Vous voyez ? Ça, c'est le perfectionnisme obsessionnel. Troisièmement, le besoin de travailler et de réussite. Il y a des gens qui ont un besoin quand ils se lèvent parce que c'est leur mode d'épanouissement. Si je ne travaille pas, je n'existe pas. Si je ne travaille pas, je ne peux pas être heureux. Alors attention, ce n'est pas tout le monde, hein. Là, j'ai dit certains. Je ne sais pas si c'est les 6% qui restent. Mais en tout cas, ils ont souvent cette nécessité donc, de travailler, mais aussi, elle s'accompagne d'un besoin de réussite et de reconnaissance. Et si vous êtes une personne qui a peu confiance en vous, vous allez avoir besoin de cette reconnaissance pour vous sentir valorisé. Et donc le travail, quelque part, comme vous manquez de cette confiance, de cette valeur en vous-même, que vous n'avez pas compris ce que Dieu disait de vous, hein, eh bien vous allez la chercher dans votre travail. Votre identité va être liée à votre travail. Et c'est pour ça que le jour où vous arrêtez ça, tout s'effondre. Quatrième symptôme, le retrait de la vie sociale. Ça, c'est quelqu'un qui vit que pour son travail. Elle délaisse toutes les activités extérieures, telles que le sport, la famille, les amis, les voyages, et pour un chrétien, eh bien, ce sera son église, ses frères et sœurs. Ses relations sont perturbées, il va y avoir des embrouilles régulièrement, parce qu'elle ne passe pas de temps avec les gens, et parce que les tâches sont plus importantes que les relations. Donc vous voyez, les gens qui sont constamment en train de vouloir être opérationnels, de vouloir être fonctionnels, ils en oublient les relations. En fait, ils oublient l'essentiel. Parce que dans une église, dans une famille, ce n'est pas les actes seulement qui comptent. C'est toutes les relations, toutes les choses que l'on fait ensemble qui comptent et qui ont vraiment de la valeur. Cinquième, et ce sera le dernier symptôme, l'incapacité de se détacher du travail. Un workaholic, il est totalement dévoué à son travail. Et lui, il n'hésite absolument pas à faire des heures supplémentaires s'il y a un projet qu'il nécessite. Même s'il est fatigué, il y va quand même. Parce qu'il s'imagine que sans lui, ça ne peut pas marcher. Il a ce côté sauveur qui est là. Et du coup, moi j'ai connu des pasteurs comme ça. Jusqu'à 80 ans, ils lâchaient pas le grappin. Parce que sans eux, ils pensaient que l'Église allait s'effondrer. Mais bien entendu, c'est bien connu. Si le pasteur tombe, dans le péché, oui. Mais si tu t'accroches comme une moule à un rocher, mon ami, tu te leurres complètement. L'Église, elle est là depuis plus de 2000 ans et elle sera là après toi. T'inquiète pas pour ça, c'est pas la tienne. C'est celle de Jésus. Et donc, vous voyez, il y a un décalage dans la compréhension de ce que devrait être le travail et de la place qu'il devrait prendre dans notre vie, dans notre tête, dans nos cœurs et dans nos actes. Alors, je vais répondre directement à cette question, comme je l'ai fait pour la première fois, pour le quit quitting. Le workaholisme, mes amis, l'addiction au travail, est inacceptable, inacceptable pour un chrétien. Au même titre que le quit quitting. C'est pas normal. Je prends juste une exception qui va confirmer la règle. Jésus, à un moment donné, il dit avec ses disciples qu'ils changent, ils vont ailleurs parce qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Jésus, donc ça veut dire qu'il avait beaucoup de travail. On est d'accord ? Quand on n'a pas le temps de manger, on avait beaucoup de travail. Est-ce que Jésus a péché ? Jamais. Donc est-ce que Jésus péchait là ? Ben non, c'est évident. Ça veut dire qu'on peut se laisser déborder à un moment donné, ou parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a des urgences, on se met en mode workaholic. On est en mode, mais on n'est pas un workaholic. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va faire plus d'heures pendant un temps court. Et qu'est-ce que faisait Jésus juste après ces périodes de feu ? Il se mettait à l'écart et il allait se reconnecter à la source, à son Père. Il allait prier, en fait, tout simplement. Et donc, ça veut dire que vous pouvez traverser à un moment donné, quand il y a un chantier à finir, ben, tu vas te faire 60 heures dans la semaine. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Le problème, c'est quand tu vis ça tous les jours, toute l'année. C'est pas ponctuel, c'est quand ça s'installe. Donc voilà, là, c'était l'exception. On va prendre, j'ai pas trouvé le mot workaholic dans la Bible, je suis désolé. Mais j'ai quand même trouvé une illustration, un exemple, une histoire d'un homme qui avait le profil du workaholic. Le jeune homme riche. Vous vous souvenez de cet homme ? Le jeune homme riche. C'est Luc, chapitre 18, et on va lire les versets 18 à 23. Un chef interrogea Jésus et dit : Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai dit-il, gardez tout cela dès ma jeunesse. Jésus, après l'avoir entendu, lui dit, ok, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste, car il était fort riche. Ici, nous avons le profil du workaholic. En fait, un workaholic, c'est quelqu'un qui a une idole dans sa vie, qui fait une fixette sur quelque chose et qui ne peut pas s'en séparer. Ici, il y a un chef riche qui vient demander à Jésus de lui enseigner ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui répond, et l'homme est tout heureux de lui indiquer que c'est exactement ce qu'il a toujours fait. D'accord ? Qu'est-ce que faisait un workaholic ? Les tâches. J'ai toujours fait. Il est dans les tâches. Pas dans la relation. J'ai toujours fait ça. Hé, hey, regarde, tac, 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 tac. Et il fait son listing à Jésus. J'ai coché les croix. Les cases, pardon. J'ai coché les cases. Je suis un bon petit chrétien. Mais ensuite, ça se gâte. Regardez où Jésus va mettre le doigt. Il met le doigt sur un domaine de sa vie qu'il veut garder pour lui. Et regardez ce que Jésus dit. Il te manque encore une chose. Ah ouais, t'es dans le mode « je fais », je vais t'en rajouter une petite couche. Mais celle-là, je pense que ça va juste dévoiler que t'as une grosse idole dans ta vie. C'est l'argent. Tu existes à cause de ton argent. Et si je t'enlève ça, tu n'existes plus. C'est un workaholic. Le parfait descriptif du workaholic. Son travail. Travail dur. Il met tout en pratique. Qu'est-ce que je dois faire encore ? Vous voyez ? On est vraiment dans l'addict là. Ah, ok, j'ai encore un truc à faire. Comment je peux gagner la vie éternelle ? Comment je peux la gagner ? Comment je peux travailler pour la gagner ? Vous voyez ? C'est vraiment le gars qui... Le besogneux, quoi. Il est là, il y va, il tape dedans. Et puis, il est perfectionniste. Vous avez vu combien... J'ai tout fait ça, tout bien, titin. Ah bon, il manque quelque chose ? Ah mince, ah mince. Ah non, 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 quand même, Seigneur. Jésus, il va exactement... Il le prend sur son terrain. Il savait exactement ce qu'il y avait dans son cœur. Toi, ton problème, c'est que tu existes à cause de ce que tu fais et à cause de l'argent. Mais si je te retire ça, tu m'aimes pas. Tu es en train de dire « bon maître », mais que dalle, tu m'aimes pas. Je vais te le prouver. Vends tout ce que tu as. Ça ne veut pas dire qu'on est tous appelés à tout vendre ce que l'on a. Hein. Attention, on n'est pas tous des workaholics. Mais dans ce cas présent, oui, son problème, il était là. Et donc, une idole, finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement quelque chose que vous désirez davantage que Jésus. Cet homme-là, pour suivre Jésus, il fallait qu'il abandonne, qu'il mette en deuxième priorité l'argent, son travail, son identité. Et il n'était pas prêt à le faire. Je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie, plus large que le travail, mais bien sûr dans le travail, où Jésus est à la deuxième place ? Est-ce que tu désires davantage aller au travail le matin ou retrouver quelque chose de particulier ou un sport ou un hobby, une passion, plutôt que de te retrouver avec Jésus ? Ça serait facile de vous pointer du doigt. Vous savez quoi ? Il n'y a pas un jour où je ne me pose pas cette question. Pas un jour. Jésus est clair. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, à ses idoles, à son égoïsme, et qu'il se charge combien de fois ? De sa croix. Chaque jour, les amis. Chaque jour. Ne pensez pas que les idoles, c'est pour les autres. Demain matin, vous êtes confronté à la même question. Peut-être qu'aujourd'hui, vous venez à l'église, c'est cool, j'ai mis Dieu en priorité. Mais demain matin, ça sera autre chose. Et demain matin, c'est le chaque jour. Demain matin, tu devras renoncer à toi-même de la même manière que pour ta conversion. Tu renonces à toi-même. Tu prends ta croix. Tu prends les commandements de Jésus parce qu'ils sont meilleurs. Tu sers Jésus, tu sers les autres, tu aimes. Et ensuite, tu pourras suivre ton maître. La priorité, on la connaît tous. Regardez où elle est. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Qu'est-ce que faisait Jésus après avoir passé un moment à œuvrer ? Il retrouvait son Père. Ok. Priorité absolue du chrétien. Qui travaille ou qui ne travaille pas, c'est sa relation avec Dieu. Ok ? Aime Dieu. Et ensuite, Une fois que tu t'es connecté à Dieu, que tu as retrouvé cette relation, que tu as retrouvé les bonnes priorités, alors tu vas pouvoir beaucoup mieux aimer ton prochain. Tu pourras beaucoup mieux renoncer à toi-même parce que tu vas prendre du recul et à ce moment-là, tu vas pouvoir servir Dieu et l'honorer. Mais ta priorité numéro un, c'est de mettre Dieu au centre. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas aimer son travail. On peut être passionné, et c'est génial si c'est votre cas. Mais il y a très peu de gens, finalement, qui sont passionnés par leur travail. Si c'est le cas, mon ami, tu es en danger tous les jours. Toi, tu es plus en danger que celui qui va au travail pour... il aime bien, mais sans plus. Tu es en danger. Parce que toi, tu peux très facilement basculer, switcher entre le Dieu travail ou le Seigneur. C'est trop facile. C'est trop difficile. Et c'est pour ça que tu as besoin de te poser cette question tous les jours. On l'est tous, les amis, des fabriques d'idoles, mais on a vraiment besoin de ça. Parce qu'un alcoolique du travail, un workaholic, un addict du travail, il n'a pas les bonnes priorités. Il passe tout son temps au travail et il va négliger toutes les responsabilités que Dieu lui confie dans la Bible. Et on en a. J'en cite que trois parce que ça touche les trois grands domaines de la vie. 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant, qu'un infidèle. Vous imaginez ? Ça, c'est une priorité. C'est une priorité. Tu dois prendre soin de ta famille. Si tu passes ton temps au travail, ton idole, on sait où elle est. On sait où elle est, ton idole. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Si tu négliges ton église, parce que tu passes tout ton temps au travail, si tu peux jamais être à une réunion parce que tu travailles ou parce que tu es fatigué de ton travail, mon ami, tu n'as plus les bonnes priorités. Tu dois prendre soin de tes frères. Bien sûr, de tout le monde, mets tes frères en priorité. L'église. Troisième domaine, ta propre famille, ton épouse, si tu es marié. Marie, aimez chacun votre femme. Le workaholisme, c'est surtout les gars. Hein. Mais quand même, c'est pour tout le monde. Mais les hommes sont très focalisés sur leur travail. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tu ne peux pas te livrer à ton épouse, te sacrifier pour elle si tu ne passes pas de temps avec elle. Un minimum de temps de qualité est exigé d'un mari envers sa femme. Ça va dans les deux sens, mais ça aussi. Vous, mesdames, c'est plutôt votre alcoolisme avec les enfants. Pas l'alcoolisme. Votre addiction aux enfants. Bien souvent, les enfants prennent la place du mari, du couple. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon non plus. Parce qu'un jour, les enfants vont quitter le nid et vous allez vous retrouver face à un étranger. Donc vous devez continuer d'aimer votre époux s'il est à votre côté. Et le rappeler qu'il rentre à l'heure à la maison, si ce n'est pas le cas. Il a des responsabilités, tu as des responsabilités, tu es le chef de la famille, donc tu devrais, sinon j'appelle Franck. Sinon tu écoutes le message. En fait, voilà les priorités. Dieu, priorité number one, la famille. L'Église, le travail, il arrive seulement en quatrième position. Alors bien sûr, des fois, ça peut s'interchanger selon les périodes, mais Dieu est toujours notre priorité. Ça veut dire quoi pratiquement ? Ça veut dire que si tu as un crack dans ton travail, que tu es admiré, que tu réussis, bah, c'est super, on est content pour toi. Mais je ne suis pas content du tout si tu es toujours un crack, mais que tu négliges ta famille, que tu négliges ton rôle de père, que tu négliges ton rôle de frère. Parce que là, c'est inacceptable. Totalement inacceptable. Et là, tu rates le but du travail. Allez, je fais trois applications. Trois applications concrètes. La première, par rapport à la paresse. C'est quoi le remède par rapport à la paresse ? En général, lorsqu'on est nonchalant, lorsqu'on est adepte du quit-quitting, qu'on est paresseux au travail, mais ça veut dire qu'on a souvent perdu toute motivation. Toi, tu as besoin de reconsidérer le travail à la lumière de la Bible. Vraiment. Sache que ton travail est important pour Dieu. Répète-le-toi. Parce que moi, mon travail, c'est nul. Non. T'as un job, tu peux manger, tu peux subvenir aux besoins de ta famille. Il est difficile, il n'est pas épanouissant, mais il est important. Et il pourra devenir épanouissant si tu changes ta mentalité de quit quitting. Il peut le devenir. Tout peut devenir une bonne chose. Tout. Dieu peut transformer ces choses. Mais il va commencer par transformer ton cœur. Dieu t'a créé pour travailler. On n'a pas été fait pour le quit quitting. On a été fait pour travailler. Depuis la chute, ça s'est gâté. Ça devient difficile. C'est pénible. C'est pas épanouissant. C'est frustrant le travail. Mais le principe demeure. On a été créé pour travailler. Même si le péché a changé beaucoup de choses, ça a amené de l'insatisfaction, de la frustration, c'est toujours le même objectif. Tu dois travailler pour la gloire de Dieu et faire le bien dans ta vie à travers elle. Regardez ce que dit Paul de ceux qui profitaient du système. Là, je change d'épître, je vais dans Éphésiens. Que celui qui dérobait, parce que ça, c'était des paresseux, hein, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Et j'ajoute que celui qui profitait du système n'en profite plus. Ça, c'est pas dans la Bible, c'est moi qui ai rajouté. Mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains. Pourquoi ? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Quand tu fais du quit quitting, tu penses qu'à ta pomme. Arrête d'être égoïste. Pourquoi ? Parce que ton travail, regarde ce qu'il est dit là. Ton travail, c'est pas seulement pour que tu gagnes ton pain pour que tu manges, c'est pour que tu puisses donner du pain à d'autres, pour que tu aies suffisamment pour aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà un des objectifs que tu peux t'ajouter. Tu travailles pour Dieu, tu travailles pas pour rien, et tu travailles pour pouvoir donner aux autres. Deux objectifs que tu peux te fixer. Et je pense que ça va changer un petit peu. Si tu es adepte du quit quitting, ça va changer ta mentalité. Et tu sais quoi, Jésus dit que c'est même une condition du bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Scientifiquement, aujourd'hui, on sait, on a mis des capteurs au niveau du cerveau, les gens qui donnent sécrètent plus de dopamine que ceux qui ne font rien. Que celui qui se fait plaisir en regardant un film. Vous imaginez ça, les amis ? Vous, vous pensez qu'en regardant un film, vous êtes super cool dans votre canapé, ça va vous faire du bien. Ok, on enregistre une certaine dose de plaisir dans le circuit neuronal. Oui, ça s'active. Donc, il y a du bonheur à chiller. Mais si tu donnes, non seulement c'est beaucoup plus grand, mais c'est durable. Il y en a un qui est très court. Quand tu as fini de regarder ton film, qu'est-ce que tu as envie de faire ? D'en regarder un autre. Donc, tu as eu un petit moment de plaisir, mais comme tu finis par être addict, tu en veux encore un autre. Et ça, c'est du sans fin, ça. Mais tu n'es jamais satisfait. Quand tu donnes, quand tu te connectes à ton Seigneur, là, tu es sur l'autoroute alors que tu étais sur les chemins de sentier, sur les chemins caillouteux. Si tu es un adepte du quit quitting, que tu as tendance à la paresse, il faut que tu contres cette tendance. Donc moi, je t'encourage à faire quatre choses. La première, tu le confesses à Dieu. Vraiment, confesse-le à Dieu. Reconnais ta paresse pour ce qu'elle est. C'est un péché. La paresse est un péché, disons-le clairement. Ensuite, tu te repens. C'est-à-dire que tu vas te détourner de ta mauvaise façon de penser et tu vas réaffirmer ton désir de suivre les objectifs de Dieu dans ton travail. Ensuite, troisièmement, tu vas demander à Dieu la force pour lutter contre cette tendance qui n'honore pas Jésus, clairement. Et enfin, tu vas faire ton maximum pour Jésus et non ton minimum pour ton entreprise. Et là, mon ami, si tu appliques ces choses, tu vas retrouver ta motivation à travailler. Si tu travailles pour Jésus, si tu travailles pour faire le bien, si tu travailles pour être un bon témoin, tu vas avoir de beaux objectifs de travailleur. Et ça va changer radicalement ta façon de travailler. Maintenant, une autre application pour ceux qui ont plutôt tendance à être des accros au travail. La vérité que tu dois retenir, qui est essentielle, c'est que le monde qui t'entoure ton entreprise ne mérite pas que tu vives pour elle. Je sais que le monde te promet beaucoup de choses. Pour que tu sois à son service. Pour que tu... Il va te presser comme un citron pour te faire promettre de l'argent, une situation, une identité, une renommée. Tu seras reconnu, tout ça. Mais ça, c'est que... C'est factice, les amis. C'est pas durable. Ça peut s'en aller comme ça, d'un claquement de doigts. En fait, il n'y en a qu'un qui vaut vraiment la peine de vivre cette vie. Et vous savez déjà la réponse. C'est Dieu. Dieu est le seul qui peut apporter une satisfaction ultime et durable à ta vie. Un travail, ce ne sera que ponctuel et ce ne sera jamais satisfaisant à 100%. Et donc, je t'invite à te poser 3 questions. Si tu es un peu trop passionné par ton travail. Premièrement, est-ce que ton bonheur, ton épanouissement, ta raison d'être vient principalement de ton travail? Pose-toi cette question. Deuxième question, est-ce que tu négliges d'autres responsabilités importantes? Ta piété personnelle, ta famille, l'église, bien sûr au détriment de ta passion. Et troisième question que tu peux te poser, est-ce que ton travail te préoccupe plus que Jésus? Quand tu as répondu à ces 3 questions, je t'invite à faire exactement la même chose. Confesse ton péché à Dieu, repens-toi, demande-lui la force de lutter contre ta tendance naturelle et surtout, fais ton maximum pour Jésus et non ton maximum pour ton entreprise. On n'a changé qu'un mot ici par rapport au quit quitting. Un seul mot a changé. C'est ça, vous avez remarqué? Il y en a un qui fait le minimum, l'autre qui fait le maximum. Dans les 2 cas, on doit faire notre maximum pour Jésus. C'est notre objectif, notre but qui change. Et ça devrait tout changer. Et dernier point, c'est le remède universel. Un remède universel. Vous savez qu'au temps de Jésus, il y a des gens qui travaillaient dur pour survivre. Ils gagnaient leur pain à la sueur de leur front. Aussi, quand Jésus a miraculeusement nourri des foules, certains se sont mis à le suivre. Mais ces gens suivaient Jésus par intérêt, comme la plupart des humains sur la terre. Les gens aiment Dieu tant que tout va bien et qu'il peut leur apporter des bénédictions. Mais regardez comment Jésus corrige cette compréhension. Et j'ai pris ce texte parce qu'il parle du travail, encore une fois. Regardez bien ce que dit Jésus. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. Travaillez. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, mais que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Et regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Si tu veux travailler pour quelque chose d'important, Jésus te dit, crois à celui qui l'a envoyé, crois à Jésus, place ta confiance, travaille pour cette nourriture de ton âme, cette nourriture qui est éternelle, c'est ce qu'il dit. L'autre, elle va périr ta nourriture. Ton travail, il n'est que ponctuel. Travaille vraiment pour l'éternité. Et c'est quoi ce travail? C'est pas, je vais faire des œuvres. Non, non, non. C'est la foi. C'est comme ça qu'on peut accéder à la vie éternelle, qu'on peut nourrir notre âme, c'est en plaçant notre confiance en Jésus, en une personne, en l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Jésus, il est mort sur une croix pour notre péché, pour notre workaholisme, pour notre quit-quitting. Il est mort pour nos abus, nos excès de paresse et nos excès de travail, pour nos addictions. Et il veut qu'on retrouve cette sérénité dans le travail, qu'on retrouve cette motivation profonde dans le travail. Et c'est comme ça qu'on trouvera un épanouissement. Et non pas dans le travail l'épanouissement, mais au travers du travail. Et au travers de ce que l'on va faire, parce qu'on le fera pour le roi des rois. Mes amis, je vous souhaite, je te souhaite, vraiment de prendre ces paroles à la lettre. Ça peut changer ta vie. Ça peut changer ta vie. Croire. Croire simplement. Pour avoir la vie éternelle. C'est ce que Jésus attend de nous.